Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une montpelliéraine, une pure jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui ne m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices et amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. La langue que nous employons tisse notre quotidien, elle forge notre identité, elle occupe une place première dans nos vies, personnelles comme collectives, chacun le sait. Ce phénomène banal prend toute sa dimension quand la question linguistique illustre, voire structure tout particulièrement une trajectoire historique. À l'évidence, c'est le cas outre-Pyrénées, dans la Catalogne voisine. Elle est proche et différente de notre Occitanie. Un livre récemment paru aux éditions L'Harmattan nous donne à le comprendre. Son titre, 40 ans de politique linguistique en Catalogne. Son auteur est mon invité, Henri Boyer. Merci de venir nous éclairer au micro de Divergence FM. Henri Boyer, vous êtes professeur des universités émérite en sciences du langage, cofondateur de DipraLang, laboratoire de sociolinguistique de l'université Paul Valéry et auteur d'une dizaine de livres consacrés notamment à la sociolinguistique, en particulier à l'occitan et à la langue, fondateur et directeur des collections sociolinguistiques et langues et paroles chez L'Harmattan. Une question au passage, Henri Boyer, la sociolinguistique, qu'est-ce que c'est? Pouvez-vous nous dire de quoi il retourne?
Ben, c'est une des branches, je dirais en ce moment, très productives des sciences du langage, qui comprennent beaucoup de disciplines, de sous-disciplines. Et la sociolinguistique, elle cherche à décrire, à analyser, à comprendre la vie des langues en société. C'est-à-dire réellement tout ce qui se joue autour de l'usage de telle ou telle langue, de telle ou telle variété de langue, et de ce qui est fait par les États de leur langue.
Donc, est-ce qu'on peut le résumer en disant c'est les rapports entre la langue et la cité?
Tout à fait, c'est exactement ça. La cité au sens large du terme, ça peut être la cité au sens de commune, de communauté linguistique, mais ça peut être aussi la cité avec tous ces groupes, avec tous ces, on va dire, tous ces conflits, tout, bref, c'est ça.
C'est ce qu'on va voir en Catalogne. Donc.
Voilà.
Alors, avant d'en venir à vos travaux, racontez-nous votre Montpellier. Alors, enraciné dans votre village du Biterrois, Saint-Geniès-de-Fontedie, vous n'habitez pas à Montpellier, mais depuis vos études, vous y séjournez régulièrement. Alors, dites-nous quels sont les lieux à Montpellier que vous appréciez, en particulier ceux qui sont peut-être moins connus et qui ne figurent pas dans les dépliants touristiques et que vous conseillez à vos amis.
Ah, écoutez, moi je pense que d'abord j'ai une pensée émue pour l'école normale,
oui,
d'instituteur, parce que j'ai passé de 62 à 66.
De vos études, donc.
Au début, totalement. Je suis parti de mon cours complémentaire de Murviel-les-Béziers avec le concours que j'ai réussi d'entrer à l'école normale. Et j'y suis resté, donc, 4 ans. J'ai fait le second de première terminale, enfin bref. Et j'ai un souvenir, c'est l'école normale qui a déterminé ma vie.
Alors, elle a changé d'usage depuis.
Oui,
là, donc,
elle
était près de l'actuelle Crous, hein, si mes souvenirs sont bons.
Tout à fait.
Alors, donc, c'est d'autres lieux aussi marquants, là, qui ont un peu constitué des repères géographiques ou spatiaux.
Alors, c'est difficile de les dissocier de ma propre...
parcours.
Mon propre parcours. Bon, il y a l'université Paul Valéry, que j'ai connue très belle, quand elle était boisée, arborée, il y avait... Elle est belle aujourd'hui, mais je ne veux pas polémiquer là-dessus, mais elle était à échelle très humaine en 69-70, quand elle a été créée. Et là aussi, j'ai eu la chance d'avoir réussi au concours d'entrée, au concours de l'IPES, qui existait à l'époque. À l'époque, il y avait plein de passerelles entre la vie sociale et les écoles. Et on pouvait, effectivement, j'ai fait j'ai été un enfant de la République.
Voilà, un repère qui parle, j'imagine, à beaucoup des auditeurs et auditrices. Alors, bon, vous connaissez notre vie, bien entendu. Si vous aviez à définir le style de Montpellier, ce qui caractérise Montpellier par rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui les métropoles.
Écoutez, moi, je l'ai longtemps trouvé. Alors, c'est difficile de dire ça, parce qu'il ne faut pas que ce soit perçu comme une critique de tel ou tel. Mais c'était une ville, et je pense que Georges Frêche a été le grand maire de Montpellier.
Oui, ça ne fait aucun... Quel que soit le jugement qu'on porte pour lui, sur lui, nul ne le conteste.
Voilà, exactement. Il a fait de cette ville, qui était une ville ultra-provinciale, sous Delmas. Je me souviens, quand j'ai fait l'école normale, c'était une petite ville commerçante, qui vivotait. Et Frêche en a fait une grande capitale méridionale, avec une forte identité, je dirais, écologique déjà, je le dirais. Et où il faisait bon vivre, et très jeune, parce qu'effectivement, les universités de Montpellier ont su attirer d'abord beaucoup d'étudiants, ce qui était normal, hein, les étudiants d'ici, mais aussi des étrangers. Ce qui m'avait frappé quand je suis rentré à l'école normale et que le jeudi ou le mercredi, c'était le mercredi à l'époque, on sortait... C'était le nombre d'étrangers qu'on voyait.
Ah oui, le côté cosmopolite.
Oui. Et ça a continué. Et ça a fait de cette ville ce qu'elle est.
Y compris ce qu'elle est aujourd'hui dans ses rapides développements récents, à la fois démographique et urbain.
Voilà. Alors moi, je ne suis pas sûr que la démographie, telle qu'elle est visible aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'elle plairait à Frêche. Je veux dire par là que c'était son ambition de faire une ville de qualité. Et moi, j'ai l'impression, mes copains oui. Me disent que il y a de la délinquance, un peu plus grand, mais il y en a partout, faut dire ce qu'il y a. Donc, peut-être que Montpellier a vécu ces grands, grands moments de plénitude.
Un espèce d'âge d'or qui serait fini.
Voilà. Alors, j'espère que ça, c'est une fausse illusion, c'est une fausse impression, et que vraiment Montpellier continuera à être. Il y a un aspect quand même qui est négatif dans l'histoire, c'est que Montpellier a pompé beaucoup de choses de cette région. Par exemple, beaucoup d'entreprises de Béziers, beaucoup d'entreprises
publiques ou privées.
Voilà, publiques et privées, vous avez raison. Ont été absorbés par cette espèce de capital.
Bien sûr. Voilà. Alors, on va encore parler, si vous voulez, de Georges Frêche dans un moment, mais avant, petit rappel, donc, avant d'aller en Catalogne. Dans votre livre, donc, « Langue et identité », sous-titré « Sur le nationalisme linguistique », paru en 2008 aux éditions Lambert-Lucas, vous êtes penché, entre autres, sur une affaire qui a suscité alors bien des réactions. Quelques années avant, donc en 2005, Georges Frêche, le même, alors président de la région Languedoc-Roussillon, a voulu changer son nom en Septimanie. Son explication, je le cite, « La région s'est appelée Septimanie entre le 5e et le 9e siècle. Ce terme a le mérite d'unifier l'Occitanie et la Catalogne française. Ce fut un échec retentissant. Selon vous, pourquoi, Henri Boyer ?»
Alors, d'abord parce que je pense qu'il n'a pas pris la mesure. Le slogan de Frêche à l'époque, c'était « Septimanie, une identité pour réunir ». Or, ça a été une identité pour diviser. Car, effectivement, le consensus qu'on avait trouvé à l'époque de la décentralisation et qui avait conduit à baptiser la région Languedoc-Roussillon n'était pas fortuit. C'était un choix très judicieux qui associait deux entités historiques avec des noms historiques, des toponymes historiques, Languedoc et Roussillon. Et les Catalans s'en étaient très bien accommodés, ils en étaient très fiers qu'on ait maintenu leur identité catalane. Quand Frech a voulu changer ça, ça a été une levée de bouclier parce que, effectivement, d'abord, Septimani gommait toute identité linguistique et identité tout court, hein, identité culturelle, et donc que les gens ne s'y retrouvaient pas. Et donc, ils ont protesté parce que c'était, ils ont perçu ça comme un acte d'autorité gratuit. Et surtout, non justifié. Et alors, voilà. Ils ont manifesté.
D'où le retrait du projet au bout de quelques semaines de polémiques très fortes.
Exactement. Par exemple, les manifestations qui ont eu lieu en Roussillon, à Perpignan, ont été imposantes. Hein. C'était pas 100 personnes.
Hein. Très bien. Alors, maintenant, on va en venir à la Catalogne. Mais votre réponse à la question précédente, ouvrez la voie à nos échanges. Qu'est-ce qui vous a conduit à travailler sur 40 ans de politique linguistique en Catalogne de 1978 à 2017, c'est-à-dire quelques années après la mort de Franco en 1975 et la transition démocratique qui a suivi? Quel était le déclic? Vous dites, ah, tiens, je crois que ça vaut le coup de faire maintenant un livre sur ce sujet. Voilà.
Alors, faut dire toute la vérité, mais rien que la vérité. Moi, j'ai eu la chance inouïe de faire, figurez-vous, mon service militaire comme sursitaire à Barcelone. Ça fait rire aujourd'hui, mais à l'époque, on pouvait être coopérant.
Affecté
à l'université autonome de Barcelone, jeune université, dynamique, qui, malgré le franquisme, bon, décadent, hein, c'était, quand j'y suis allé, c'était en 73. Donc, deux ans avant la mort de Franco. Et bon, ça a été une chance inouïe pour moi.
Parce qu'il y avait déjà un bouillonnement, j'imagine.
Absolument.
Et la matrice d'un certain nombre d'événements
bien
futurs.
Bien sûr. Il y avait les associations de Beins, d'habitants. Il y avait toute la clandestinité dont on l'a oublié. Mais bon. Et donc, j'ai découvert Barcelone et la Catalogne. J'avais fait des études d'espagnol, entre autres. Hein, j'avais fait beaucoup de linguistique et de l'espagnol. Et on ne nous parlait pas tellement de ce qui se passait, de ce qu'était la Catalogne dans l'Espagne d'aujourd'hui. Et je l'ai découvert avec beaucoup
de plaisir
parce que j'ai retrouvé quelque chose de mon propre identité d'Occitan.
Une résonance avec vos propres racines.
Absolument. Et avec Lafont. J'avais été l'élève de Lafont, je faisais une thèse avec lui. Donc voilà. Donc ça s'est passé entre 73 et je suis parti en 80 pour l'université.
2023 ou 22, vous attaquez à la rédaction de ce livre parce que c'était le bon moment de faire le point sur cette question linguistique.
Voilà, parce qu'il y avait eu en 2017 cette tentative d'indépendance. Ce qu'on appelle la déclaration unilatérale d'indépendance 2017 par les indépendantistes catalans parce qu'ils étaient majoritaires, ont pensé qu'ils pouvaient pousser et jusqu'au bout et tout seul décider que la Catalogne sortait de l'Espagne.
D'où vive réaction du gouvernement espagnol
évidemment.
De l'époque.
Alors, pourquoi 1978, pourquoi 2017? 1978, c'est l'élaboration de la nouvelle constitution après la mort de Franco.
Constitution espagnole.
Oui, espagnole, démocratique. J'ai vécu, parce que là, j'étais prof à l'autonoma, comme on dit, et j'ai vécu un petit peu le grand débat qui a eu lieu autour de l'identité catalane et de son inscription avec l'identité basque et galicienne dans la Constitution. Le consensus avait bien marché et donc on est parti pour, effectivement, plusieurs décennies de politique linguistique. En particulier, on a rétabli la généralité de Catalogne.
C'est le gouvernement catalan.
Le gouvernement autonome, avec des pouvoirs très larges, hein, qui n'ont rien à voir avec notre décentralisation. Rien à voir. Le problème, c'est que, peu à peu, l'esprit de la transition, qui était un esprit de tolérance,
d'apaisement,
exactement, et surtout dont le peuple espagnol avait besoin après la mort du dictateur. Effectivement, il s'est passé quelque chose de peut-être normal, c'est que la droite a repris ses mauvaises habitudes franquistes et elle a contesté. La droite espagnole est espagnoliste à 100%. C'est une droite, outre qu'elle est socialement de droite, droite, hein, je veux dire.
Oui, une petite remarque pour avoir examiné cette question sur l'autre aspect. Il y a une perpétuation quand même d'un certain nombre d'idées qui n'ont pas été évacuées complètement, loin de là, par rapport à la période franquiste. Oui.
Absolument. D'ailleurs, Vox, le leader de Vox, qui est
le parti d'extrême droite actuel,
vient du Parti populaire. Je veux dire qu'il y a une espèce d'osmose. Oui. Hein, voilà. Bon, donc, moralité, la droite au pouvoir, Rajoy, en 2010, a voulu revenir sur le statut d'autonomie très, très généreux, très ouvert, qui avait été donné à la Catalogne en 2006. Moralité, elle a fait supprimer avec la justice qui est à sa botte. Hein, je veux dire, la transition et la constitution de 1978 n'est pas allée au bout des choses. Elle aurait dû épurer. Ça ne s'est pas fait. Et donc, moralité, le Conseil constitutionnel a cassé un certain nombre de
dispositions
de ce nouveau statut d'autonomie, le deuxième, qui avait été voté par tout le monde, la Cour, la Cortes, le peuple catalan. Tout
voilà,
le monde.
Les Cortes, c'est-à-dire le Parlement catalan qui avait voté ce texte.
Voilà.
Et ce n'était pas une affaire de catalan à catalan.
Non, non, non. Et ça avait été accepté par les Cortes, par un vote. Donc, ça a été senti comme une grande injustice, hein, une grande intolérance et un acte d'espagnolisme imbécile. Et donc, grande manifestation, enfin bon, le cycle s'est enclenché. Et,
donc 2017, ce qui explique
2010,
la
entre 2010 et 2017, voilà. Le processus indépendantiste. Il faut savoir qu'avant cet épisode, beaucoup de nationalistes catalans n'étaient pas indépendantistes. Ils étaient nationalistes, très catalanistes, mais pas indépendantistes. Pujol l'a déclaré un jour dans une revue Amir, à ce que vous connaissez. Il a dit « Je suis un nationaliste catalan, mais je ne suis pas indépendantiste ». Au bout de 5 ans, il est devenu indépendantiste, comme beaucoup de catalanistes. Oui. Et donc, moralité, ce qui s'est passé, c'est que la revendication du souverainisme pour la Catalogne a pris corps. Et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de force, si bien que, par exemple, moi, j'ai assisté à une manifestation contre l'arrêté du Conseil constitutionnel au Paseo de Gracia à Barcelone, où il y avait 1 million de personnes.
Oui, en 2012, et, c'est ça. Hein.
Voilà, voilà. Donc, vous voyez...
Voilà. Alors ça, c'est le contexte historique, en gros, qui, bon, jusqu'en 2017, vous l'avez dit, on évoque à la fin, le temps tourne, ce qui s'est passé depuis 2017. Alors, quelques points de repère, donc, se met en place une politique linguistique, donc, portée par le gouvernement catalan.
Tout à fait.
Quelles en sont les principales caractéristiques ? Outre que, bon, elle a été élaborée et mise en œuvre par vos collègues sociolinguistes qui ont joué un rôle important, dites-nous un mot, aux côtés des politiques pour que les politiques publiques de développement ou d'enracinement, d'extension de l'usage de la langue se fassent dans de bonnes conditions.
Voilà. Alors, comme vous le dites fort bien, la langue, en fait, très tôt, ça a commencé au début du XXe siècle, mais ça s'est consolidé. À la mort de Franco, la langue est devenue le nœud, le
point nodal,
central, le point nodal, comme disait Pujol, de l'identité catalane. Et donc, il n'est pas anormal qu'une corporation d'universitaires, de chercheurs, linguistes, se soit retrouvée à la pointe du combat. Mais des sociolinguistes, parce qu'effectivement, là, pour le coup, c'était la langue, dans son rapport étroit
avec la société,
société qui était
en première ligne. Et voilà. Et donc, effectivement, cette corporation des sociolinguistes, très tôt, dans les années 60, a produit un corpus théorique et pratique
qui a été mis en œuvre
dès que la Catalogne est devenue autonome.
Alors, tout ceci est fort intéressant, vous voyez, mais le temps tourne. Alors, cette politique linguistique, quels ont été les grands axes, parce qu'il s'agit de développer l'usage de la langue, et comment cet objectif a-t-il été, me semble-t-il, atteint, en tout cas visé?
Alors, d'abord, avec l'enseignement. L'enseignement en catalan a été, ce qu'il n'avait jamais été, à l'école primaire, prioritaire. C'est-à-dire, on a pratiqué ce qu'on appelle l'enseignement en immersion. C'est-à-dire, dans toute la zone en particulier, mais partout, hein, pas simplement là. En particulier, la zone où l'immigration, il y a entre guillemets, hein, d'origine espagnole, du sud de l'Espagne, etc., qui était venue en Catalogne pour travailler, pour trouver du travail, cette immigration, évidemment, elle était d'origine hispanophone. Et donc, les Catalans, les responsables de la politique linguistique catalane ont compris que c'était là qu'il fallait mettre le paquet.
Il y avait un processus d'intégration par la langue.
Par la langue. Et donc, c'était l'immersion, c'est-à-dire qu'on commence un peu ce que font les calendrettes en Occitanie. Alors,
l'apprentissage de la langue dès les premières années d'école.
Voilà. Et si bien qu'effectivement, les jeunes qui sortaient de lycée étaient bilingues. C'est-à-dire qu'ils parlaient aussi bien catalan que chez eux, ils parlent catalan. Ça, c'est une autre histoire. Mais ils savaient le catalan et l'espagnol. Ils étaient parfaitement bilingues. Et donc, c'était un plus, évidemment. Cela dit, les gens de droite espagnolistes n'ont pas accepté que le catalan tienne la dragée haute au castillan. Bien sûr. Et donc, on tout fait pour faire capoter cette réforme.
Donc, une guerre linguistique pour l'appeler par son nom.
Oui. Oui, oui. Et d'ailleurs, des sociolinguistes ont contrecarré en parlant de la bataille de la langue, en disant que c'était la bataille de la langue qui était prioritaire. Ce qui n'était évidemment pas faux.
Mais est-ce que parallèlement à ça, c'est ce que votre livre semble-t-il indique, il y avait un certain nombre de défenseurs solides du catalan qui considéraient qu'il y avait une menace qui pesait à terme sur cette langue.
Oui.
Dans l'évolution générale, la mondialisation et d'autres phénomènes,
oui.
On l'a vu dans d'autres pays, où une langue minoritaire sur l'ensemble du territoire, même si elle est majoritaire dans une partie de ce territoire, perd peu à peu du terrain.
Tout à fait. Et je ne dirais pas que c'est le cas, mais des signes inquiétants montrent qu'effectivement, si du jour au lendemain, on arrêtait la politique linguistique en Catalogne, le catalan régresserait, mais dangereusement.
Donc il y a une volonté ou un volontarisme qui s'est perpétué depuis.
Absolument, absolument. Et justifié, car le catalan sortait du franquisme persécuté, minorisé. Et donc il fallait absolument rétablir l'équilibre, ce qu'ils ont essayé de faire tout en maintenant l'enseignement du castillan, parce que c'est normal, on était en Espagne. Les Catalans sont pas plus fous que d'autres. Et donc, il n'était pas question, évidemment. Mais il y a une tendance des sociolinguistes qui, très tôt, ont dit que si on gardait le bilinguisme...
Voilà.
Si on gardait le bilinguisme, effectivement, rien n'était joué.
Donc, il y a un débat entre experts et un débat au sein de la société politique catalane, comme on peut l'imaginer.
D'abord, au sein des sociolinguistes, en ce moment même, il y a deux tendances qui s'opposent. Et j'ai des amis des deux côtés. Et moi, je pense pour le respect du bilinguisme, évidemment. Mais certains disent qu'on ne pourra pas faire une Catalogne catalane si on maintient le castillan à hauteur.
Oui, parce qu'il y a une espèce de recherche d'un équilibre.
Ah, voilà, c'est ça. Parce qu'effectivement, le catalan, le castillan reste ce qu'il est, il va le rester. Il va inévitablement, parce que le statut international du castillan est ce qu'il est, il va bien sûr progresser plus vite que le catalan. Et donc, il y aura danger. Il y aura danger, mais si le volontarisme qui a prévalu jusqu'à maintenant est arrêté. Moi, je pense qu'effectivement, il faudra toujours corriger le différentiel
oui.
pour maintenir un vrai bilinguisme. Et
donc, c'est bien la volonté politique des responsables politiques catalans, ouais. tels qu'ils sont élus ouais. ou ils seront élus, qui reste déterminante.
Absolument.
Alors, donc, ça, c'est l'enjeu. Donc,
et du pouvoir central.
Du pouvoir central, bien entendu. Alors, pour faire court, donc, on se penche pendant les quelques minutes qui nous restent sur la situation actuelle. Donc, il y a des élections régionales prochaines.
Oui.
Antérieurement à ça, il y a un accord politique entre les socialistes qui sont au pouvoir et avec les partis autonomistes hein, ou séparatistes, notamment bon, les deux partis de Catalogne. Sauf que les socialistes et ces séparatistes vont s'affronter aux prochaines élections. Donc il y a ce contexte compliqué là, qui vous paraît là aussi lourd d'un grand nombre d'enjeux dont on verra l'issue dans quelques temps.
Complètement. Complètement. Car moi, je persiste à dire, avec d'autres, hein, que les socialistes catalans, ils parlent catalan entre eux. Il n'y a pas de problème. En Catalogne, les gens, à part le PP, voilà. Non, là, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas l'avant-garde du catalanisme.
Voilà. Voilà ce que mais ça, c'est une... Même s'il y a eu bon, les statuts, comme vous avez dit, là, portés par Pasqual Maragall, bon, voilà. socialiste, alors, maire de Barcelone, et donc cette fibre, je dirais.
Voilà.
Comment dire de fort régionaliste, catalaniste.
Très fort.
Et moins forte aujourd'hui hein, dans une partie
Des socialistes, moi je dirais que oui. Mais c'est. Bon. Tout le monde ne partage pas cette analyse, hein, il faut être clair. Moi, je pense que si les socialistes arrivent au pouvoir, ils continueront la politique linguistique. Mais pas, bien sûr, avec la détermination.
Ou l'ardeur.
Avec l'ardeur des indépendantistes, c'est clair. Le tort des indépendantistes, ils étaient majoritaires. Certes, pas majoritaires en voix dans le pays, mais majoritaires à l'Assemblée. Il fallait qu'ils conservent cette majorité, à mon avis, pour montrer que des indépendantistes pouvaient faire une politique qui ne soit pas, on va dire, hostile.
Voilà, ou discriminante, ou discriminatoire, oui.
Et donc, ils n'ont pas su attendre. Et cet empressement à déclarer l'indépendance, oui. dont ils savaient pertinemment.
Bon, on savait que c'était illégal. Bon,
illégal,
après,
voilà. Ils savaient qu'avec
ils l'ont payé cher, hein.
qu'avec les crétins de droite qui étaient au pouvoir à Madrid, ils n'allaient pouvoir rien faire. Hein. C'est ce qui est arrivé. Ils sont allés en prison. D'accord. Les gens de Esquerra Republicana sont allés en prison. Il ne faut pas l'oublier. Hein.
Bien sûr. Alors, dernière question, Henri Boyer, brièvement. Est-ce que pour le coup, dans ce que nous venons de décrire à très grands traits, là, la question de la langue, l'enjeu de la langue et au-delà de la culture catalane reste très prégnante si on veut comprendre la situation politique en Catalogne.
Absolument. Absolument. Alors, c'est, évidemment, c'est clair qu'il y a une petite baisse de notoriété des indépendantistes. Mais petite baisse. Et il n'est pas sûr qu'à la moindre escarmouche que les espagnolistes de Madrid... ne manqueront pas de faire, l'indépendantisme remonte.
Sentiment catalan.
Absolument.
Un peu atténué, dirons-nous.
Un peu atténué, mais il reste, on consomme, vous savez, il reste beaucoup.
Voilà. Eh bien, Henri Boyer, merci. Bon, l'avenir nous le dira, on va regarder voilà. bien sûr ce qui se passe. Et merci encore de votre contribution mais à la compréhension de la situation en Catalogne, qui, on l'a vu, peut s'expliquer notamment, mais fortement, par la question de la langue et de la culture. Merci à vous.
Merci à vous.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpellier-Rennes, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une Montpellier-Rennes, une pure jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Boudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.